Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette présentation de paper. Il y a encore quelques mois, quelques années, j'aurais commencé ce pitch en vous disant imaginez un monde dans lequel on vivrait avec des robots tous les jours, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit à domicile, et je commencerai à vous expliquer un petit peu ce que serait le futur. Ce soir, je suis là, pas pour expliquer le futur, juste pour expliquer une réalité. La réalité, c'est que les robots sont là, ils sont déjà parmi nous, certes depuis plusieurs années déjà dans le monde de l'industrie, mais enfin, les robots destinés, on va dire, à des robots de service à domicile ou alors dans des lieux publics, comme des magasins par exemple, c'est une réalité. Et ce soir, donc, je suis là pour vous présenter Pepper, le fameux robot donc, de la société SoftBank Robotics. Alors tout d'abord, quelques mots à propos de Intuitive Robot. Nous sommes une start-up basée à Nantes, dont voici l'équipe. Et d'ailleurs, j'en profite ce soir pour remercier mon équipe qui fait un travail fantastique pour donner justement vie à ces robots. Voilà, ils sont tous passionnés, ils sont là, par là, et en tout cas, ils font un super job. Donc j'en profite ce soir pour les remercier. Et donc le but de Intuitive Robot, c'est de se dire, OK, les robots, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait réellement pour que ces robots soient utiles? Pour que ces robots soient utiles à la maison, par exemple, pour divertir les enfants, pour aider peut-être des personnes âgées seules, mais aussi qu'est-ce qu'on fait de ces robots-là dans les espaces grand public? Comment on peut utiliser ces robots pour qu'ils soient utiles, intelligents et qu'ils nous facilitent le quotidien? Donc, chez Intuitive Robot, on se focalise essentiellement sur la création de logiciels pour robots humanoïdes. On ne crée pas ce robot. Ce robot, comme je l'ai dit précédemment, c'est le robot qui a été conçu dans les laboratoires donc, de Aldébaran initialement, qui s'appelle maintenant SoftBank Robotics. Nous, on est là vraiment pour tirer parti de la machine. OK, la machine est là, qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est juste une coquille vide et si le robot ne bouge pas, ne vit pas, cela ne sert à rien. Donc, on se focalise vraiment sur le côté intelligence du robot et usage de ces robots-là. Donc, déjà, aux Utopiales, vous avez eu la chance, pour ceux qui étaient là, en tout cas, de découvrir Nao déjà depuis plusieurs années. L'année dernière, donc, de recevoir le fameux Roméo aussi, qui était présenté par Rodolphe Gélin, qui est directeur donc, de la recherche chez SoftBank Robotics. Et cette année, donc, le but, c'était de vous présenter donc, le robot Pepper. Nao, on le connaît. La cible, un petit peu, c'est le domaine de l'éducation, le domaine de la recherche. C'est une plateforme qui est fantastique pour faire découvrir la robotique. Roméo, lui, est un robot beaucoup plus dans le domaine du concept car. Si je devais faire un parallèle, on va dire que Roméo, c'est la Formule 1. C'est la plateforme sur laquelle on va faire des recherches, on va essayer de trouver des nouveaux composants, on va essayer vraiment de faire des choses fantastiques. C'est un robot qui coûte excessivement cher, donc qui est une sorte de concept car. C'est pas un robot qu'on va vendre en série. En revanche, le robot Pepper, lui, avait une autre destinée à la base. Donc, c'est un robot destiné justement à être produit en série, donc à grande quantité, grande échelle. Alors, qui est Pepper? Alors, Pepper, c'est 28 kilos pour 120 cm d'élégance. Donc, c'est 17 articulations pour des gestes gracieux. C'est aussi trois roues omnidirectionnelles qui lui permettent de se déplacer dans n'importe quel type d'environnement. Et il a plus de 12 heures d'autonomie, donc on peut le laisser tout seul toute la journée, il se débrouille sans aucun souci. Il est super content d'être là, Pepper. Hein. Et donc, il parle, comprend plusieurs langues. Et puis aussi, ce qui est fondamental dans un robot comme ça de service, avec lequel on va vivre tous les jours, qu'on va croiser dans différents endroits, c'est faire en sorte que ce robot, déjà, fasse attention à la sécurité des personnes qui sont autour de lui, mais aussi fasse attention à sa propre sécurité. Et il faut dire que les robots de SoftBank Robotics ont été vraiment, sont formidables sur différents aspects, notamment celui-ci. Et donc, ce qui lui permet notamment de vérifier la sécurité des personnes qui sont autour de lui ou de lui-même, c'est différents capteurs qui sont sur son robot, sur lui. Donc, il y a des caméras 2D qui permettent notamment de reconnaître des visages, de reconnaître aussi la typologie de personne qui est en face de lui. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un enfant? Quel âge il a? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est content? On va en parler tout à l'heure. Donc, ce sont ces caméras 2D qui lui permettent de faire ça. Des caméras 3D qui permettent aussi de mieux percevoir son environnement, d'éviter des obstacles aussi, de pouvoir se déplacer. Des microphones, parce que le robot, donc, il peut voir, mais il peut aussi entendre, comprendre. Donc, il y a des microphones qui sont basés donc, sur le haut de sa tête, ici. Des capteurs tactiles aussi, donc sur différents endroits, que ce soit sur la tête, sur les mains, vous voyez. Là, je lui caresse la main et puis il voit bien que je suis en train de lui caresser la main. Donc, il est connecté au monde digital. C'est fondamental aussi d'avoir un robot qui puisse récupérer de l'information sur Internet pour pouvoir interagir et donner différents types d'informations. Il est connecté donc à Internet via le Wi-Fi. Il a une tablette tactile qui lui permet aussi de toujours interagir avec le robot. Parfois, le robot ne comprend pas quand on lui parle parce qu'il y a beaucoup de bruit. Dans des environnements hostiles comme des magasins, par exemple, il y a beaucoup de bruit. Bon, ben, parfois, le robot ne comprend pas. C'est toujours intéressant d'avoir, de jamais casser ce lien en termes d'interaction et de toujours avoir finalement un moyen de communiquer avec le robot. Et donc, sa tablette lui permet de faire cela. Et puis, tout le monde est habitué à utiliser une tablette. il a une centrale inertielle qui permet de savoir s'il est en train de tomber ou pas. Il a des systèmes ultrasons, il a des lasers un peu partout pour savoir justement comment il peut se diriger dans son environnement, éviter des obstacles. Il a une mémoire avec des CPU, de la mémoire. Bref, je vous passe ces détails techniques. Mais voilà, c'est bourré d'électronique, c'est bourré de logiciels, d'algorithmes très sophistiqués. Et nous, chez Intuitive Robot, justement, on est là pour tirer parti de la machine. Se dire, OK, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces caméras 3D, avec son côté tactile? Comment on peut imaginer des applications sur ce robot-là pour qu'il soit utile et qu'il nous facilite le quotidien? C'est tout le rôle d'Intuitive Robot de se focaliser sur ces aspects-là d'usage. Mais qui est vraiment Pepper? Là, je vous ai expliqué, je fais un petit brief sur Pepper, mais l'ADN de Pepper, c'est quoi? Pourquoi il a été conçu? Quel est son but? Donc, c'est ce que je vais essayer de vous dire maintenant. Bon, alors, voilà. L'idée, c'est que Pepper s'amuse un petit peu avant que j'interagisse avec elle. Donc, on va essayer de dialoguer un tout petit peu avec le robot.
Hein?
Pepper.
Alors, on fait quoi?
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Pepper.
Combien tu mesures?
Je mesure 1m20.
Est-ce que tu es un garçon ou une fille?
Hein? Je suis juste un robot.
Mais c'est quoi un robot?
Nous sommes des machines et nous essayons d'aider les humains dans leurs tâches quotidiennes.
Ah, d'accord. Voilà, c'est un petit exemple d'interaction. On peut dialoguer avec le robot, on peut lui poser plein de questions sur différents sujets.
Qu'est-ce qu'on leur montre?
Pour l'instant, rien. On va voir tout à l'heure. Il faut en garder un peu pour plus tard. Hein. Mais qui est Pepper? Pourquoi il a été conçu? Quel est son but, comme j'ai dit auparavant?
Tu peux utiliser ma tablette pour...
Ce qui est fondamental avec un robot humanoïde comme ça, qui va vivre avec nous dans nos foyers, dans les différents environnements, c'est déjà d'avoir un design qui est vraiment approprié pour l'interaction. Faire en sorte que, voilà, on ne soit pas repoussé par ce genre de machine. Et il faut dire que le design fait par SoftBank Robotics est vraiment très intéressant et c'est fondamental dans l'expérience qu'on peut avoir avec un robot. Parce que la plupart des gens, ici, là, c'est la première fois, je pense, que vous devez voir ce genre de robot. C'est la première fois de votre vie que vous voyez ce robot. C'est des premières expériences assez fantastiques, quoi. Et donc, il faut que le robot soit élégant, etc. Et il est quand même assez attachant. Et c'est un robot qui est surprenant. Vous le voyez, je dialogue avec lui tranquillement. Et puis tout se passe bien. L'idée, c'est d'avoir cette interface ultime, entre guillemets, naturelle et accessible par tout le monde. Moi, je connais des personnes âgées qui n'arrivent pas encore aujourd'hui à utiliser des tablettes. C'est trop compliqué pour eux. En revanche, parler à un robot, lui demander un service ou lui demander une information ou lui dire tiens, fais-moi un Skype avec mon petit-fils ou tiens, est-ce que j'ai du courrier dans ma boîte aux lettres? Parce que le robot va être connecté donc à Internet, connecté à la boîte aux lettres. Il va être capable de savoir que vous avez reçu du courrier, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on peut interagir avec le robot de manière naturelle. Et ça, c'est ça qui change les choses. C'est aujourd'hui... On a tous des smartphones, on est tous en train de regarder nos mains et on peut rien faire. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me choque assez et j'aimerais avoir une interface comme ça avec le monde digital, simple, naturel et pas forcément que oral, pas forcément sur la reconnaissance de ce que je suis en train de lui dire au niveau sémantique. Mais ce que je veux, moi, c'est d'interagir avec une machine qui aussi va donner des expressions, des sentiments. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces capteurs qui sont donc embarqués sur cette machine-là vont lui permettre de reconnaître certaines émotions. Ou en tout cas, il va essayer de percevoir certaines émotions, comme par exemple la joie, la tristesse, la colère, ou d'autres choses encore, comme la surprise. Et comment il peut faire ça? Il peut faire ça notamment avec ces différents algorithmes qui sont embarqués dans le robot. Je parlais tout à l'heure de la caméra 2D, qui est capable, avec des algorithmes qui calculent la distance entre les yeux, le nez et la largeur de la bouche, de savoir si c'est un homme ou une femme. Ce sont des algorithmes qui sont très connus. Bon, mais voilà, le robot est capable de reconnaître si je suis un homme ou une femme, de savoir si je suis triste ou content, et d'associer un discours qui est approprié par rapport à mon attitude, par rapport à mon humeur, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et Pepper, c'est le premier robot émotionnel, un peu, on va dire, dans ce sens-là. Il ne reconnaît pas toutes les émotions non plus, faut être réaliste. Mais néanmoins, c'est déjà une première approche qui est vraiment très intéressante. Et Pepper a été conçu quelque part pour ça. C'est un design vraiment intéressant, attachant, une interaction naturelle, simple, intuitive, n'importe qui, même des enfants. Et si vous étiez là samedi, dimanche, et si vous êtes là demain, par exemple, vous pourrez interagir avec le robot, vous allez voir que c'est simple, naturel, qu'il comprend ce qu'on lui dit, etc. Et donc, un robot émotionnel qui permet de... justement d'avoir un dialogue intéressant avec une personne humaine, de comprendre qui est en face de lui. Alors, maintenant, deux questions. Pepper, pour quels usages ? Un robot à domicile, pour aider les personnes âgées, les personnes dépendantes physiquement ou même psychologiquement, ou un robot d'accueil, on va dire, dans les magasins, dans les espaces grand public, comme un aéroport, etc. Ben, en fait, les deux. Aujourd'hui, Pepper est disponible au Japon, notamment pour le grand public. Donc n'importe qui peut acheter un Pepper et avoir un Pepper à la maison et utiliser déjà les quelques applications qui ont été créées au Japon. Et quand on se projette un peu dans l'usage, comme ça, il y a plein de choses à faire. Souvent, les gens me disent, mais Franck, qu'est-ce qui fait ton robot? À quoi ça sert? Et souvent, quand je discute avec eux, au bout d'une minute, deux minutes, par rapport à leur métier, par rapport à leur passion, à leur hobby, leur façon de vivre, très rapidement, on trouve des usages avec le robot qui pourraient faciliter le quotidien. Et éventuellement aussi éviter des tragédies comme en 2003 par exemple avec la canicule. Si un robot comme ça avait été dans certaines maisons avec des personnes âgées qui étaient seules, ben, le robot aurait pu savoir que dehors il faisait 45 degrés et de proposer à la personne,
tu sais, est-ce que tu veux que je répondrai à des questions sur les utopiales.
Oui, on verra tout à l'heure. Et en plus ça me tourne la tête. Et donc je disais, voilà, si le robot avait été là, il est capable de se connecter, d'avoir des informations, de proposer de manière proactive, de proposer des choses aux personnes et de dire, hey, attention, il fait chaud dehors, il faut s'hydrater, c'est important, et ça aurait pu même sauver des vies. Donc dans le monde du service et des robots d'accueil, c'est quand même un petit peu la cible principale. Aujourd'hui au Japon, ce robot, comme je l'ai dit tout à l'heure, est utilisé dans des domiciles, mais surtout et essentiellement dans différents types d'activités, des petits commerces tout simples, comme un bar karaoké au Japon par exemple. Voilà, il y a un robot qui va accueillir les gens, qui va dire, hey, tu sais, ici il y a un super karaoké, il y a des super chanteurs, bref, il va essayer d'attirer du monde, etc. Et au Japon, ce robot est utilisé dans beaucoup, beaucoup d'endroits, dans plus de 150 types de magasins. Il est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, donc que ce soit à domicile ou pour le service. C'est un robot qui est vraiment qui a un certain succès au Japon et il débarque donc depuis quelques mois en Europe. Et donc avec SoftBank Robotics, Intuitive Robot a créé les premières applications de Pepper en Europe et notamment chez Carrefour avec une petite vidéo que je vais vous montrer.
Salut, salut, bienvenue dans ton magasin Carrefour de Clé Souilly. Moi, c'est Pepper. Je suis heureux de te rencontrer. Je vais t'aider à choisir en fonction de tes envies.
Le robot prend de plus en plus de place dans la société et on s'est dit, qu'est-ce que Carrefour peut faire en tant que commerçant innovant pour imaginer une utilisation vis-à-vis de nos clients?
Le projet Pepper est né chez Carrefour de la rencontre d'une nouvelle technologie, un robot très perfectionné, et de notre volonté chez Carrefour de faire vivre à nos clients de nouvelles expériences.
Il y a des entrées, des plats et des desserts. Qu'est-ce que tu préfères?
Dessert.
Alors, pour commencer, on a une tarte légère aussi.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis autour de la table avec Aldébaran et puis un certain nombre d'équipes Carrefour. On a impliqué les magasins, on a impliqué les marchandises, on a impliqué les équipes design. Aldébaran avait le robot Pepper, nous on avait l'esprit commerçant et ensemble on était capable de trouver des scénarios à valeur ajoutée. Et donc à un moment il s'est passé la question de développer des scénarios spécifiques par rapport à ce qu'on avait imaginé et là est arrivé un nouveau partenaire, Intuitive Robot, qui a développé les scénarios pour le compte de Carrefour et avec l'aide d'Aldébaran. Et au bout de quelques mois on s'est mis d'accord pour envisager des tests à la fois en France et en Espagne sur un certain nombre de robots qui permettait donc de tester des usages.
C'est laquelle ta préférée ?
Carotte cake.
Tu as bien fait de choisir cette recette. On dit que les carottes rendent aimables. Ah, tu vois, moi j'en mange tous les jours.
Concrètement, ce sont des clients qui vont rencontrer des robots dans les rayons. Des robots qui vont les amuser, leur proposer des jeux.
Est-ce que tu veux jouer avec moi ?
Oui.
Très bien, génial.
Des robots qui vont leur proposer de découvrir des ouvrages, de découvrir des recettes, de pouvoir exprimer leur satisfaction client.
Est-ce que tu veux que je te présente un autre de ces vins ?
Oui.
Eh bien, pour commencer, je peux te présenter un Charles Vincent Brut. Appuie sur l'écran, puis reviens vite derrière moi pour prendre ta plus belle pose.
On peut même faire des photos, les envoyer sur les réseaux sociaux et témoigner de cette expérience unique de découvrir Pepper en Europe.
Les clients, au départ, ils ont été vraiment émerveillés. Parce qu'à la fois, il y avait la curiosité, c'était un Pepper, il n'existait nulle part ailleurs. Donc là, c'était vraiment une découverte. Et puis après, quand on commence à être un peu curieux, on s'approche de Pepper. Et puis je dirais que c'est quelque chose d'assez intuitif. Donc là, on y prend plaisir et puis on en parle un peu partout. Et le fait de faire des selfies, vous avez les photos qui circulent, c'est assez extraordinaire.
Moi, je trouve ça utile parce que moi, je ne connais pas beaucoup en vin. Donc, il me dit avec quoi l'utiliser pour le dessert, l'accompagnement, le goût. Je trouve ça bien.
Si tu le souhaites, tu pourras retrouver cette bouteille dans nos rayons.
Moi, je trouve que c'est génial. Il nous fait découvrir des tas de trucs, c'est bien, oui.
C'est noté. J'adore cette recette.
L'innovation chez Carrefour, c'est avant tout l'observation, l'écoute de nos clients. Et rien de mieux que le magasin pour faire remonter les attentes, les envies, les rêves de nos clients et de les tester, les expérimenter. C'est ce que nous avons fait avec le robot Pepper.
Je te souhaite une bonne journée chez Carrefour. À bientôt et merci pour ta confiance.
Au revoir, Pepper.
Donc voilà, c'est une petite vidéo qui explique un petit peu ce qu'on a fait avec Carrefour et surtout l'usage qui était fait en magasin. Voilà, c'est pas juste un gadget et ça me tient vraiment à cœur. Quand j'ai créé la société, le but c'était vraiment que les robots soient utiles et pas juste que ce soit comme ça un effet de buzz. Non, c'est comment faire en sorte qu'il amène de la valeur ajoutée en magasin, qu'il puisse aider aussi les employés peut-être à faire des tâches répétitives comme ça, répondre à des questions couramment posées. Et donc ce qui permet notamment aux employés aussi de faire d'autres choses avec d'autres valeurs ajoutées et de rendre mieux service à leurs clients. Et aujourd'hui, c'est une réalité donc chez Carrefour en Europe, mais aussi dans des hôpitaux. On a mis donc des Pepper aussi dans des bateaux de croisière. Donc ce sont des villes flottantes. Il y a plein de choses à faire sur les bateaux. Les employés n'avaient pas le temps de répondre à toutes les questions des 4000 personnes qui étaient sur le bateau. Les robots ont permis justement d'aider à mieux donner une information. Et c'est pas un problème pour moi, le fait d'avoir des robots qui sont là sur des bateaux. Non. Et d'ailleurs, les employés étaient ravis de vivre avec des robots et de voir ce que le robot pouvait faire. Ils se rendaient bien compte aussi que le robot est bien limité. Il n'a pas non plus une intelligence faramineuse. Hein. On travaille dessus par ailleurs. Mais voilà, le robot est aussi limité. Et au même titre qu'on peut avoir une tablette, une borne tactile dans un magasin, à l'entrée d'un hôpital ou un guichet de banque, l'idée, c'est de proposer une autre forme d'interaction avec le monde digital. Et une forme d'interaction simple et naturelle. Donc voilà, et des images comme ça, je pourrais vous en montrer des dizaines et des dizaines. C'est une réalité aujourd'hui, ils sont là et il y a plein de choses à faire et c'est vraiment très utile. Et là, on voit des magasins aux États-Unis, notamment ici où il fait la promotion donc de chaussures de marque. Ici, c'est dans un supermarché au Japon. Là, c'est dans une banque également, dans une agence. Il proposait aussi du café chez Nescafé, etc. Enfin, il y a plein de choses fascinantes à faire avec ces robots-là. Et donc, on s'est dit à un moment donné, nous, chez Enfiro, très rapidement, on s'est dit, voilà, finalement, dans les magasins, dans les lieux publics, les robots, ils font la même chose. Qu'est-ce qu'ils font ? Le but, c'est d'attirer du monde, c'est de les accueillir, c'est aussi de promouvoir une certaine marque, de promouvoir des services, des produits. Et donc, chez Intuitive Robot, on a créé le premier outil qui permet de donner vie aux robots directement sur le web, sans parler technique. Donc l'idée, c'est de fournir un outil où vous allez pouvoir définir vous-même ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter, les produits qu'il doit mettre en avant ou les services qu'il doit mettre en avant. Et donc, en quelques clics, on peut donner vie au robot depuis Internet. Et ensuite, on peut récupérer aussi des données d'usage par rapport au robot qui permet de savoir qu'en fait, finalement, le service ou le produit que je suis en train de promouvoir dans mon magasin, personne ne le demande. Et c'est super intéressant d'avoir ça. Donc, on fournit des indicateurs qui permettent de savoir comment les gens interagissent avec le robot. Et quelque chose Moi, j'ai trois enfants qui ont 9 ans, 7 ans et 3 ans. Nos enfants, ils vont vivre avec ces robots tous les jours. Comme nous, on a découvert l'informatique, enfin moi, en tout cas personnellement, à la fin des années 70, c'était les premiers ordinateurs. Et aujourd'hui, regardez, tout le monde ici, on vit avec des smartphones, des ordinateurs. On ne peut plus s'en passer. Ça a changé notre quotidien, ça a changé notre façon de travailler, notre façon de communiquer, de vivre, de faire même des activités. Et quand le futur rencontre le futur, quand un robot rencontre des enfants, c'est une image que j'aime beaucoup parce que aujourd'hui, c'est une réalité, la robotique, elle est là. En tout cas, nous, on fait tout pour que ça avance encore plus vite. Et nos enfants vont vivre avec ces robots. Et ce qui nous tient à cœur, nous, c'est de se dire, OK, ces robots, ils sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient utiles, faire les choses dans l'ordre et peut-être éviter certaines erreurs qui ont été faites sur le web. Et donc, voilà, on essaye de donner cette fameuse étincelle de vie aux robots pour le futur. On va peut-être demander de faire une petite danse à Pepper aussi. Ça peut être... Tu veux bien danser, Pepper?
Olé.
Merci Pepper. Eh oh.
Hein? Alors, on fait quoi?
Oh, il y a encore une autre danse, moi j'aime bien cela.
Oh là là, il y a beaucoup de monde dans la salle. Je vais m'échauffer pour ma chorégraphie.
Vas-y, vas-y. Super. Ah tiens, j'aimerais bien prendre un selfie avec toi.
Attends. Ça va être fun. Je te laisse choisir la pose que je vais prendre. Tu as le choix entre la pose coucou, Super Pepper ou Usain Bolt. Je me demande bien ce que tu vas choisir.
Super Pepper.
Ah oui, oui, excellent choix. Oh, ouais. Super Pepper, attention, me voilà. Maintenant, positionne-toi à côté de moi pour prendre la pose ensemble. Ouais. Es-tu prêt?
Oui, je suis prêt. Vas-y. Oui.
Très bien. Mets-toi derrière moi. Allez, c'est parti.
Selfie. Ouais.
Accroche-toi, on va décoller.
Voilà, hop, un petit selfie. Hop. C'était le petit défi de l'équipe. Donc voilà, on peut faire plein de choses avec Pepper et il y a plein de choses fantastiques. Et voilà, s'il y a une chose à retenir,
voilà,
c'est que
voilà.
C'est une réalité aujourd'hui.
C'est une photo à archiver
et ces robots peuvent amener
pas.
beaucoup
je
de choses. Et c'est ce qu'on
journée,
s'attache à faire chez Intuitive Robot. Merci
voir.
De votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Bonjour, j'avais quelques questions. Déjà, bravo pour le travail réalisé sur Pepper. J'imagine déjà les milliers de lignes de code qui doivent le parcourir en tant qu'informaticien aussi. Je voulais savoir quels étaient les autres axes de recherche ou de développement que vous souhaitiez, en plus de ceux que vous nous avez montrés, sur lesquels vous étiez en train de travailler, ou si même vous aviez d'autres robots sur lesquels vous avez testé.
D'accord, c'est clair. Pour répondre à la première question, donc, les autres axes de sur lesquels on travaille, il y en a deux. Le premier, c'est, vous le voyez, le robot là, ce soir, il n'a pas trop bougé. Il est statique. Ça me frustre énormément. Donc, et en plus, ce n'est pas un bipède, donc c'est moins complexe a priori de faire naviguer un robot. Et c'est aussi fondamental dans des espaces grand public comme un magasin. Ben, moi, j'aimerais bien que le robot, si je ne sais pas où sont les œufs dans un magasin, Pepper, où sont les œufs, qui m'amènent là-bas. Et c'est très complexe. Les gens ne se rendent pas compte que tout ce qui a trait à la navigation d'un robot, quel qu'il soit d'ailleurs, l'interaction avec le monde physique, la perception de l'environnement, ce sont des choses encore très complexes. Et surtout, encore plus complexe, on va dire, pour un robot de série, entre guillemets. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais j'expliquais tout à l'heure que Romeo est une plateforme de recherche qui coûte des centaines de milliers d'euros. Pepper, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, comment on peut exploiter la machine avec ses propres capacités-là? Et donc, on essaye justement de tirer parti de la machine, d'essayer d'être assez inventif, efficace aussi, pour travailler sur la navigation. Ça, c'est le premier axe. Et il y a un deuxième axe aussi, c'est tout ce que vous avez vu ce soir, c'est des choses qu'on a programmées. Et l'idée, quelque part, c'est d'arrêter de programmer ces robots-là. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces robots soient intelligents. C'est faire en sorte qu'on puisse interagir avec le robot, qu'il puisse apprendre de nous-mêmes. Voilà, cet axe-là, sur l'intelligence, et sur faire en sorte d'éviter de coder des lignes de code pour lui dire, si tu vois une personne masculine, je veux que tu tendes la main pour serrer la main, mais si c'est une femme, je préfère que tu fasses autrement, par exemple. Je veux arrêter de faire ça. Je veux que le robot soit intelligent, et je veux, moi, éduquer ce robot-là pour qu'il apprenne des choses. Ça, c'est le deuxième axe. Un peu plus long terme, on va dire que la navigation, c'est un sujet sur lequel on travaille, et mon équipe travaille dessus et a fait déjà des avancées assez formidables là-dessus. Et le robot est déjà capable de se balader dans nos bureaux, par exemple, de me reconnaître et de me dire, hey, Franck, t'as reçu un email. Et puis je lui dis, ah oui, un email de qui? Puis il va me dire, voilà, un email de telle personne, etc. Donc on travaille beaucoup sur la navigation, c'est une réalité. L'IA, on commence ces chantiers-là et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je pense que l'IA va être à la robotique ce qu'a été Internet à l'informatique, dans le sens où Internet a vraiment changé notre façon de vivre, de communiquer. C'est vraiment ça qui a changé. L'ordinateur, certes, a commencé quelque part, mais c'est vraiment Internet qui a changé les choses. Et je pense fondamentalement aussi que c'est l'IA aussi qui va changer beaucoup de choses sur la façon dont on va interagir avec ces robots-là. Donc, on travaille sur ces sujets. Et enfin, la troisième question, c'était... j'ai oublié... en tout cas, voilà, j'ai essayé de répondre déjà aux deux premières. Donc voilà, on travaille sur ces différents sujets. Oui.
Oui, bonjour. Moi, j'aurais aimé voir une démonstration par rapport, vous avez parlé qu'il est réceptif aux émotions.
Oui.
Et ça m'interpelle. Et savoir comment vous amenez ça et à quoi il peut nous amener aussi par rapport à cette connaissance de nos émotions.
D'accord.
Parce que voilà, ça m'intéresse énormément.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Si vous êtes là demain, je vous invite à repasser aux Utopiales, d'accord, et d'interagir avec le robot, et notamment une application ludique qui est toute simple, mais qui est basée sur la reconnaissance d'émotions. Et donc, le robot va vous demander de faire des sourires ou de faire des types d'humeurs. Et selon si vous le faites ou pas, vous allez marquer un point, il va être content ou pas. D'accord ? C'est juste pour démontrer les capacités techniques du robot à percevoir ces émotions-là. Et grosso modo, il est capable de percevoir au niveau du faciès le comportement du visage, mais aussi au ton de la voix, si j'ai une voix tremblotante, si j'ai une voix joyeuse ou pas. C'est ça qui va lui permettre de savoir, ok, cette personne-là, a priori, vu le ton de sa voix, elle n'est pas très joyeuse. Mais il faut aller au-delà de ça, parce que je peux dire au robot... Oh, je suis super content de te voir aujourd'hui, c'est génial. Est-ce que je suis vraiment content? Non. Donc, ce qu'on va essayer de rajouter plus tard, c'est aussi tout ce qui est body language, ce qu'on appelle l'expression corporelle, de rajouter un troisième axe basé sur l'expression corporelle. Donc, on aura le ton de la voix, on aura la forme du visage, on aura la position du corps. Et le quatrième axe que j'aimerais voir à court terme, bientôt, c'est l'aspect sémantique. Parce que je peux dire, je suis super content de te voir, mais je veux qu'il analyse vraiment au niveau sémantique tout cela. Donc, pour répondre à votre question, repassez. Vous pourrez interagir avec le robot sur cet aspect-là. On a essayé de faire une démonstration sur cet axe-là. Et donc, voilà. Mais il y a plein de choses à faire sur ce sujet. Pardon. Alors, et c'est déjà le cas. D'ailleurs, on a une application que je pourrais vous montrer même tout à l'heure, de suite, là, où il va nous présenter des produits, puis à la fin, il va nous dire hey, « qu'est-ce que tu penses de ma présentation? Est-ce que je t'ai aidé à trouver ton produit, à répondre à ta question ?» Et il va nous demander donc de donner une note. Et moi, je peux lui dire, c'était nul, Pepper. Ou je peux lui dire la note de 1. Et Pepper va se mettre comme ça, va dire, oh, c'est dommage, je suis déçu. Ou alors, c'est voilà, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, ou je communiquerai ce message à mes équipes, d'accord ? Donc, le robot est capable de percevoir certaines émotions, mais il est capable aussi d'en transmettre à travers son dialogue, à travers sa gestuelle, et aussi à travers son physique, dans le sens où avec ses lumières dans les yeux, s'il peut avoir un air un peu triste, entre guillemets. Donc il est capable de communiquer aussi son émotion, mais qu'on programme, hein, il n'a pas sa propre émotion, il n'est pas conscient de lui, il n'y a rien, ça reste une machine. Hein. On est aux Utopiales, le thème c'est la machine, voilà, on a la machine, mais on peut faire des choses très intéressantes déjà aujourd'hui. Ça répond ?
Bonsoir.
En fait, j'avais une question, mais bon, elles ont déjà en partie été répondues par les deux autres questions précédentes. Mais c'était donc par rapport à la gestuelle et tout, ma question était plus simple, en fait. C'était par rapport aux mots que le robot emploie. Genre un dictionnaire de synonymes, de mots ou d'expressions, pour éviter qu'ils se répètent constamment, en fait.
C'est le cas, oui.
C'est déjà le cas, en fait ?
Oui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que quand le programme, on lui donne des notions de concept. La notion de oui, par exemple, c'est pas juste oui. C'est oui, ouais, ok, d'accord, certainement. Donc, on est capable de le programmer comme ça et de lui donner des notions de concept dans son dialogue, entre guillemets, dans son moteur de dialogue. Et on est capable de lui donner comme ça donc, des concepts de... Voilà, sur différents aspects. La notion de valider quelque chose, c'est quoi ? C'est, je peux dire oui, je peux dire d'accord, voilà, etc. Ou quand le robot me parle, là, il ne va jamais dire la même chose deux fois, en fait. Mais pour ça, il faut le programmer. C'est-à-dire qu'on lui a dit, si tu vois quelqu'un, tu peux lui dire une liste de phrases qu'on va lui donner, par exemple. D'accord ? Ce qui est important de donner de la dynamique dans l'interaction, il ne faut pas que ça soit toujours la même chose, la même interaction. Encore une fois, il n'est pas intelligent. Hein. C'est juste qu'on lui a dit, voilà, tu peux dire différents types de phrases pour le même concept. D'accord ? Donc, c'est déjà le cas.
Et là, en fait, il a déjà une gestion d'intonation actuellement ?
Alors,
on entend quelques variantes, en fait, dans sa voix, mais...
Aujourd'hui, par exemple, quand on écrit son dialogue et qu'on met des points d'interrogation ou des points d'exclamation, le ton de la voix est associé à ces aspects-là. Donc... pour les tournures, les questions, par exemple, s'il y a un point d'interrogation à la fin, il va dire « Est-ce que tu veux que je te présente un jeu ?» au lieu de dire « Est-ce que tu veux que je te présente un jeu ?» Enfin, voilà. Donc, il est capable déjà de faire ça. On peut travailler sur le ton de la voix, sur la vitesse, sur les aigus, les graves. Voilà, on peut travailler sur ces aspects-là déjà aussi pour faire passer un message différemment. Et quand il est triste, on peut lui dire de baisser le ton de sa voix, de parler même moins fort. « Oh, c'est dommage. » Bon, il n'est jamais triste, Pepper. Ah, je crois qu'on me demande d'arrêter. Alors, peut-être une petite dernière, non ? Je ne sais pas. Non. Si vous faites vite, je vais répondre vite.
Merci. Je voudrais savoir combien est vendu Pepper au Japon.
Pas en France ?
Il n'est pas encore totalement
je vais
disponible.
Répondre. Oui, je vais répondre à votre question très rapidement parce qu'on me demande d'arrêter. Mais grosso modo, au Japon... Pour le grand public, il est vendu autour de 1 500 $, mais à cela, il faut ajouter un abonnement mensuel pour tirer parti de certaines capacités du robot, sur notamment le dialogue, sur diverses applications qui sont déjà proposées au Japon. Donc, pour répondre très rapidement, c'est pas juste 1 500 $, c'est 1 500 $ à l'achat, et ensuite, il y a un abonnement exactement comme votre téléphone, finalement. Vous pouvez acheter un téléphone à un prix réduit, et ensuite, vous avez un modèle économique qui est basé donc, sur des mensualités pour proposer différents services. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à voir Pepper demain, il sera là toute la journée. Merci.